Show le midi. La référence pour votre horoscope puis vos avis de décès. Voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
Hey, ce matin, pendant une pause sur les zones de boulevard, j'écoutais mon chum Max, puis je suis allé voir ce qui se passait du côté de l'autre station de radio de Leclerc Communication. J'ai entendu Catherine parler de ce sujet-là. Je me suis dit, on parle avec notre expert chasse-pêche, Martin Bourget, aujourd'hui. Puis il y a un sujet dans l'actualité qui fait beaucoup jaser. Salut Martin!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Je sais pas si tu as vu l'article dont je parle, mais quand j'entendais Catherine et Max parler de ce sujet-là, je braillais de rire. Il y a un procès qui se déroule actuellement au Palais de justice de Québec. On dit que c'est un procès aux allures d'histoire de pêche. On dit « armé, il aurait visé un pêcheur de truite installé dans la rivière devant chez lui ». L'accusé et le plaignant se contredisent tant sur la longueur de l'arme, que je t'ai envoyé d'ailleurs, que le premier qui aurait braqué que sur celle de son pénis. Lui était flambant nu au moment des faits. Donc en résumé, le gars il est en train de pêcher dans une rivière de Saint-Raymond. Puis il y a un gars qui est sorti sur son perron, il était tout nu. Le témoin dit qu'il était à 300 pieds et il a vu le pénis du monsieur qui le menaçait d'une arme. Il parlait de 12 pouces, pas d'une truite. Là,
mais... qu'il menaçait d'une arme, c'est le monsieur, mais il était nu et présent.
Il était nu et il avait une arme aussi dans les mains. Et le gars disait, même à 300 pieds, j'étais capable de voir que son pénis avait 12 pouces. Et là, t'as le gars qui est accusé, qui est dans le box des accusés.
Ils l'ont-ils mesuré pour comme savoir si les faits rapportés sont
crédibles? OK, c'était pas le canon 12 pouces, là.
Non, c'était pas le canon 12 pouces. C'était vraiment le monsieur. Son nom, c'est, je vais le nommer, ça va devenir une légende. Christian Couillard, 66 ans, qui
il
fait
s'appelle
face
Christian
à...
Christian Couillard, oui.
Il faut qu'il s'appelle de même.
Christian Couillard, qui a 66 ans, qui fait face à 4 chefs d'accusation pour avoir braqué une arme à feu en plus d'un autre pour harcèlement criminel. Et selon la théorie de la couronne, le résident de Saint-Raymond en Portneuf aurait pointé son arme en direction d'un homme.
C'est ça.
En direction d'un homme qui pêchait dans la rivière qui borde sa maison. Le plaignant dans cette affaire, originaire du Saguenay, a raconté au juge Julie Roy qu'il avait loué un chalet près de la résidence de l'accusé avec des collègues de travail, le temps d'un contrat de construction. Un soir après le boulot, il s'est rendu dans la rivière, mauvaise, pour y taquiner la truite. Mais
est-ce que l'eau
plutôt...
était froide, Yannick?
Ce serait plutôt retrouvé miré par la carabine et un pénis, le pénis du gars qui est accusé. Et par la suite, on a demandé au monsieur, est-ce que c'est vrai que vous avez un pénis de 12 pouces? Moi, à ce moment-là, j'aurais dit oui, là! Tant qu'à tout perdre, tu deviens une légende. Il dit, ben non, c'est un peu exagéré, là, c'est juste 6 pouces.
Mais c'est parce que le pire, c'est que ça aurait pu servir de preuve pour savoir si ça s'est vraiment passé, si l'homme était nu. Si tu dis, c'est ça qui me fait plus rire, c'est que si tu dis 12 pouces, je sais pas jusqu'à quel point on peut se rendre avec le ruban à mesurer, mais si ça fait 12 pouces, ça crédibilise le témoignage de l'autre.
Le gars accusé dit « Je reconnais avoir interpellé l'homme dans la rivière alors que j'étais nu sur mon balcon. J'étais sorti pour pisser et le pêcheur l'aurait insulté. »
Ceci explique cela.
Le pêcheur l'aurait insulté avant de quitter la rivière dans l'autre sens pour revenir par un pont situé tout près. Puis il s'est présenté sur son terrain. Il a eu peur, fait qu'il a sorti l'arme. Et là, je parle pas de l'arme de 12 pouces, mais je parle plutôt de son arme à feu. T'es-tu capable de me dire c'est quoi cette arme à feu-là, Martin? Parce que c'est la première fois que je vois ça.
J'essaie de l'identifier là, dans le sac, mais ça a l'air d'être un vieux... Première des choses, c'est pas une carabine, là, parce qu'on dit miré par une carabine. Là. Fait que je sais pas si le monsieur a confondu le pénis de l'individu puis l'arme qu'il avait dans les mains,
ben
parce
là, c'est
que
impossible.
L'arme, c'est une arme de poing, là, l'arme qu'on voit définitivement, là. Une arme de poing, j'ai de la misère à identifier, mais ça a l'air d'être une arme de poing à culasse ou un vieux mécanisme à chargement à poudre noire ou quelque chose comme ça.
Mais
c'est
tient dans une main, ça, c'est sûr.
Ouais.
Somme toute courte pour sa catégorie.
Oui.
Est-elle efficace? On ne le sait pas. Ils ne nous ont pas dit si c'était chargé ou. C'est-tu utilisation commune et quotidienne, ça non plus? C'est-tu juste pour faire peur? Ou ça, c'est pas dit non plus.
Bon, on nous dit que l'arme n'était pas fonctionnelle. Il y a deux articles, il y en a un dans le Journal de Québec, il y en a un dans l'article de Radio-Canada. L'arme n'est pas fonctionnelle.
J'ai pas lu le texte qui
Mais on ne sait pas quelle arme qui n'est pas fonctionnelle.
Ils n'ont pas pris.
C'est ça, on ne sait pas si on parle de prostate ou des munitions dans l'arme.
Mais M. Couillard, là, qu'est-ce qui va y arriver finalement, Yannick?
Là, c'est son procès actuellement, mais ce qui était particulier, c'est que la juge était là, puis elle entendait le gars qui disait non, le monsieur. Il me pointait avec son arme, mais il y avait un pénis. Puis là, l'avocate dit « Ouais, mais pour que vous voyiez le pénis à cette distance-là. C'était-tu un gros pénis? Il dit 12 pouces. Hey, moi, je suis l'accusé. Je me dis, tant qu'à tout perdre, je vais passer. Je vais passer comme un légendaire. Je vois, oui, 12. Là,
mais il y a eu beaucoup de minutes sur la longueur parce que M. Couillard il a indiqué une longueur de 5 à 6 pouces, pour être plus précis.
5
là,
à 6 pouces.
Dans son interrogation.
Ce qui pourrait être considéré comme normal, mais 12 pouces, moi, j'en ai vu un de 12 pouces dans toute ma carrière au hockey. Il s'appelait Miguel. Il était danseur aux Bugs à Québec. Puis on m'avait prévenu d'avance. Quand Miguel va se lever pour
ton
aller,
égo, quand
pour aller à la douche, là, laisse-les dans la douche tout seul.
Oh. Mais voyons!
C'est pas une arme blanche.
Là, il est 1h02, tous les enfants sont à l'école. Là, mais ça y descendait jusqu'aux genoux. Là. C'est pas une blague. Tchao! Miguel, c'était une légende à Québec. Là. À chaque fois qu'on parlait de Miguel, il y a toutes les filles qui fréquentaient le Bugs, il y avait tout un petit sourire. Hihi, Miguel! Ouais. Moi, j'ai joué au hockey avec une fois, puis j'étais encore traumatisé. Je me dis, je peux pas croire que quelqu'un peut vivre avec quelque chose
de
mal.
C'est encombrant, rendu là.
C'est un handicap.
Encombrant?
Tabarouette, tu l'as jusqu'au genou.
Encombrant, mais il y avait de la curiosité, ce qui faisait en sorte que Miguel a eu quand même une belle vie, même si aujourd'hui, il est décédé. Là.
J'imagine. Ouais. Oh, ça, là, bon, ça c'est un petit peu plus triste, par exemple.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu... Ben, tu sais, dans le cas de notre individu, là, c'est bien beau le côté de la longueur de l'engin, là. Mais c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un qui sort flambant nu pour pointer un arme. Hein. On a eu ça aussi l'année passée. Si je me trompe pas, c'était des motoneigistes qui passaient à l'entour du chalet d'un individu. Puis il était sorti. Puis cette fois-là aussi, je me trompe pas, il y avait eu une affaire de flambant nu avec une carabine dans les mains, là, littéralement. Ben, tu sais, il faut se souvenir d'une chose, il y a la nudité, non? On connaît des artistes qui ont perdu leur carrière avec ça, non? On ne brandit pas son zizi devant le public, non? Ça c'est une première règle d'or. Là. C'est
il l'a pas
important.
Perdu, il l'a récupéré, salutation à
Il l'a récupéré?
Ben oui, ben oui.
Bon, c'est toi. Je me souviens.
C'est parce qu'il y en a plusieurs, fait que ça dépend des cas.
Éric Salvaille n'a jamais réussi à réintégrer l'union des artistes, là, mais pour ce qui est de Joël Legendre, lui, il n'y a plus de trouble.
Kevin c'est... Parent en a parlé un bout.
Kevin, ouais, oui. j'ai juste grainé les verres,
oui.
Il a fait de mal.
Il
n'y
a pas de sol.
Ça revient à quelque chose de bien basique. Si on parle des armes proprement dit, là c'est un arme que je ne peux pas t'identifier à 100% dans le sac de plastique avec une tie wrap dessus. Là. Mais brandir un arme vers quelqu'un, là, pointer quelqu'un avec un arme, là, peu importe c'est quoi, même si c'est un jouet, là, c'est sûr et certain que tu vas te ramasser avec des gros problèmes. C'est jamais, jamais la solution.
C'est-tu déjà... Ça arrive dans le bois, hein, des fois, quand les gars chicanent sur leur terrain.
Absolument.
Tout ça. Ouais.
C'est arrivé à quelques reprises. C'est arrivé, entre autres, il y a 3 ans, où est-ce que même quelqu'un a fait feu vers un chien titan. Quelqu'un a tiré sur un chien de sang qui était sur le territoire du voisin en train de chercher un animal qui a été abattu de l'autre bord. Fait qu'il y a eu des menaces, pointage avec un arme, puis il y avait même eu. Ça a même fait feu vers le chien. On avait parlé à un moment donné d'un reportage qui s'appelle La guerre des bois.
Ouais.
Dans ce reportage-là, tu vas voir des individus qui tirent carrément dans des caches sur des territoires adjacents. Comment être sûr à 100% qu'il n'y a personne dans la cache? On n'a aucune idée. Fait que oui, on. Dans toutes les couches de la société, il y a des individus de même. Hein.
Mais il y a sûrement la santé mentale parfois dans ces cas-là. T'sais, je veux dire, le jour où moi... non, je ne vais pas donner cet exemple-là. Le jour où Yannick sort dehors, commence à pointer toutes les armes qu'il possède, celles qui sont même sur son corps depuis sa naissance, vers les gens, je vais commencer à vouloir aider et probablement aller chercher des soins là, pour Yannick, là.
Ben, définitivement. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. T'sais, dans la vie de tous les jours, quand t'as un fou qui part avec un char et qui rentre dans tout le monde, ça, c'est de la détresse psychologique. C'est pas pareil. L'outil a peu d'importance rendu là. La personne, par exemple, à l'Halloween, en plein centre-ville de Québec, c'était un sabre cette année-là qui avait entre les mains. La maladie mentale, la détresse psychologique, il y en a partout. Puis c'est sûr que nous autres, c'est toujours vers là qu'on a pointé en premier. Faire comme, bon, ben, va voir un petit peu les antécédents. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Y a-t-il eu de la prévention qui a été faite? Pour que quelqu'un se rende à pointer une arme ou utiliser une arme, ben, que ce soit une arme à feu ou un bat de baseball, hashtag Louisville, qui entre les mains, ben, ça va devenir de la violence quand même. L'outil a peu d'importance. Un outil est inerte tant que quelqu'un y donne pas une intention. L'outil, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'intention, lui. Fait que c'est sûr que la santé psychologique, c'est ce qu'on va pointer. Mais pointer une arme, en n'importe quel cas, que ce soit une arme jouet, que ce soit une arme fonctionnelle ou pas fonctionnelle, t'as quand même pointer une arme envers quelqu'un, puis c'est automatiquement, tu vas te ramasser au palais de justice. Ça, c'est définitif. C'est jamais, 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 jamais la bonne solution.
Il y a un auditeur qui m'écrit, puis tu sauras me dire si l'auditeur me dit vrai ou pas, parce que moi, je connais rien à ça pendant tout, mais il me dit que dans la réserve faunique des Laurentides, il faisait de la chasse et de la pêche dans ce secteur-là. Puis à un moment donné, ils sont tombés face à face avec des membres des Premières Nations. Puis les membres des Premières Nations étaient très menaçants avec leurs armes. Et les gars ont tout simplement décidé de ne pas confronter les membres des Premières Nations qui disaient qu'ils étaient sur leur territoire puis que les pêcheurs et les chasseurs n'avaient pas d'affaires là. Et quand ils ont appelé la police, je pense que c'était la Sûreté du Québec à ce moment-là, mais ils ne me le soulignent pas, là, les policiers ont dit « ben on ne peut pas rien faire ».
Ben, je peux pas te donner mon avis sur qu'est-ce que les officiers de police ont dit, parce que ça, c'est très nébuleux. Hein. On parle souvent dans certains événements des policiers qui auraient pu intervenir. Par exemple, quand il y avait des barrages dans le parc de la Vérendrye, où est-ce que les Premières Nations interdisaient aux Blancs d'aller chasser l'orignal. Puis les Premières Nations, ils provoquaient carrément pas des combats, là, mais ils intervenaient physiquement. Là, ils tassaient les Blancs en les prenant par les bras, en les tassant ou leur fermant la porte dessus. Puis si les Blancs intervenaient, bien, les policiers intervenaient auprès des Blancs pour le comment est-ce qu'on appelle ça, donc le voie de paix qui est en train de se faire, mais ils n'intervenaient pas auprès des Premières Nations. Fait que ça, c'est des récits comme ça, on en a souvent. On a souvent entendu dire que les agents de la paix n'amèneront pas en accusation les gens des Premières Nations, parce que de toute façon, quand on va être rendu devant le juge, ils vont les revirer de bord. Ça, on entend souvent ce récit-là. Est-ce que c'est vrai? Là, je ne sais pas. Le côté de se faire pointer par une arme, par des gens des Premières Nations, sur des réserves fauniques, ça, on l'a entendu souvent. J'ai jamais eu de récit de police ou de rapport de police dans ce sens-là, mais on a entendu souvent cet événement-là, par contre, de gens qui vont se faire pointer ou qui vont se faire brasser la personne des Premières Nations est en face d'eux autres, il y a des balles dans les poches, il va brasser des balles en disant « j'en ai une pour chacun de vous autres si vous ne sortez pas de mon territoire ». Ça, c'est le genre de récit qu'on a entendu malheureusement souvent.
Mais est-ce que c'est bien défini pour les chasseurs, les zones où ils peuvent le faire versus les zones où ils ne peuvent pas le faire? T'sais, j'imagine qu'il n'y a pas de piquette dans le bois là, pour vous dire « là, vous pouvez être là, pas là ».
Ben, c'est très bien défini. C'est très bien défini. La problématique est la suivante, c'est que même si c'est bien défini pour moi puis toi, on rentre sur une réserve faunique XYZ, on va se faire dire tu as la zone 2, la zone 3 puis la zone 4. Là, on se rend dans zone 2, dans zone 3 puis dans zone 4, mais dans zone 2, 3 et 4, ça donne que dans la 3, il y a un territoire qui où est-ce que, par exemple, les Hurons et Mastoyache se chicanent une partie de territoire dans ce coin-là.
Okay.
Puis toi, tu arrives là, c'est un territoire auquel tu es supposé avoir droit, mais eux autres ont mis des pancartes comme de quoi, là, c'est le territoire de un tel. Puis ils vont venir intervenir auprès de toi en disant « t'as pas d'affaires ici ». Non, mais sur ma carte de chasse, regarde, j'ai réservé, j'ai la zone 1. C'est pas grave, t'as pas d'affaires ici, puis attends pas, je vais chercher une arme. Mais ça, on a entendu souvent ce récit-là. Fait que c'est bien identifié dans ton droit d'accès, mais s'il y a des gens qui ont élu domicile, qui ont bâti un chalet-là, les gens de la réserve faunique ne peuvent rien faire pour empêcher ces gens-là d'élire domicile, puis de faire un chalet, puis de prendre ce territoire-là. Puis ils vont venir te voir, puis ils vont te dire que t'as pas d'affaires là. Ça, on entend ce récit-là quand même souvent.
OK. Ben, la meilleure des affaires, c'est juste de partir, là, tout simplement. Tu ne confrontes pas quelqu'un.
Ben, tu veux
pas
la confrontation.
Je vais aller chercher mon gun, tu vas te mettre dans le trou pour rien.
Non, c'est ça. Tu te tasses de là, point final. Là. Puis, je veux dire, encore là, on parle de Premières Nations, mais je veux amener quelque chose en lumière. L'exemple qui est donné, c'est avec des Premières Nations. Moi, je peux te donner autant d'exemples qui impliquent aussi des armes avec des Blancs.
Ouais.
C'est pas juste les gens des Premières Nations. Écoutez le reportage de la guerre des bois, vous allez comprendre que on cible souvent les Premières Nations, puis c'est facile d'identifier les Premières Nations là-dedans, mais il y a aussi souvent de Blancs que de gens des Premières Nations qui vont s'approprier un territoire, puis qui vont dire « ici, tu rentres pas, puis si ça fait pas, on va en venir au coup ». C'est pas propre aux Premières Nations. Là. On le voit tout aussi souvent chez les Blancs, là. Surtout en territoire libre.
Hey, Martin, notre émission qu'on a fait ensemble, je pense que c'était mardi soir, on parlait des animaux qui pouvaient être dangereux dans la forêt.
Oui.
Ça a levé en sacrifice, je peux te le dire. J'ai eu énormément d'auditeurs qui m'ont écrit pour me raconter des anecdotes qu'ils ont eues avec des orignaux ou encore avec des ours. Puis la plupart des commentaires, c'était vraiment exactement ce que tu t'avais mentionné, les choses à faire, tu sais, reculer sans nécessairement courir, y aller tranquillement. Puis il y a même un site web qui est sur Facebook, en fait, là, qui ont repris notre joke de le meilleur moyen pour aller te promener dans le bois quand tu as peur des ours puis tu risques d'en croiser, c'est vraiment d'amener quelqu'un avec toi qui court moins vite. Ça a été repris sur Facebook, sur un site de mime. J'ai trouvé ça très drôle. Puis, tu sais, on dirait que ça frappe l'imaginaire. Moi, ça m'est arrivé une fois dans le parc du Bec. J'étais avec la mère de mes gars, puis on avait décidé de partir en randonnée, puis on a sorti des sentiers, ce que je conseille de ne pas faire. Et moi, ce
après
que je...
ton expérience?
Ouais, après mon expérience. Puis j'avais croisé, puis je pense que je te l'avais raconté dans un autre vie radio, là. Je montais dans la montagne, là, au parc du Bec, et à un moment donné, la mère de mes gars était derrière moi, puis j'ai vu deux beaux yeux qui me regardaient, deux yeux très profonds, puis me rendre compte que j'étais face à face avec un ours qui était couché puis qui me regardait disant « Mais qu'est-ce que tu cries ici? Là, ça fait genre 100 ans, j'ai pas vu d'être humain. »
Un repas!
Puis je m'étais reviré vers la mère de mes enfants puis je dis « On va juste descendre. » Je pense que je me suis trompé de trail.
Ah, pour pas y
faire
peur.
Parce que je voulais pas qu'elle panique. Mais je reculais reculais en me disant « Regarde, c'est pas grave, t'es en sécurité, elle court moins vite que toi. » mais je reculais, puis sans le savoir, j'avais fait la bonne affaire.
Ouais, tu voulais pas faire en sorte que la viande soit comme un peu tiraillée, là.
C'est ça, mais je parlais...
Que tu la gardais tendre en ne lui disant pas.
Je parlais pas super fort, mais je disais à l'ours, « Hey, je t'en veux pas, je m'en vais, je veux rien savoir. » Puis tu sais, je me sauvais pas, puis j'ai pas stressé la personne qui était avec moi. Tu sais, elle avait commencé à crier au meurtre.
Il aurait pris ta viande à ce moment-là.
Il aurait pris mon steak.
Moins tendu.
Effectivement. Mais ça a intéressé beaucoup de monde, cette émission-là.
Tu as dit après, à la mort de tes enfants?
J'ai dit après, puis écoute, je pense qu'elle a pissé dans ses culottes juste quand j'y ai raconté après, tellement qu'elle a eu peur.
OK.
Alors, mais je veux dire, quand tu connais pas, t'as l'impression de te faire manger.
Toi, tu faisais quoi, mettons, à sortir des sentiers comme ça?
Ah, ben, je voulais voir un spot, parce qu'au Parc national du Bec, là, sérieux, si vous êtes capable d'aller faire la petite randonnée à marée basse ou juste aller vous promener dans les sentiers, c'est un des plus bels endroits. T'as l'impression que t'es à Hawaï, tellement que les petites îles qui sont autour, c'est magnifique.
Oui, effectivement.
Mais la faune est là, parce qu'au Bec aussi, là, ben moi, c'était pas un ours. C'était quand même dans le stationnement de la CEPAC. Hein? On rentrait notre kit là, après du camping. Puis un renard au loin, là, mettons un bon renard. Là, lui, il connaissait les gens qui venaient. Là. Je trouve qu'il arrive, puis il se rapproche, puis il se rapproche, puis il se rapproche, puis il se rapproche. Oui. Mais toutes nos portes d'auto sont ouvertes parce qu'on est en train de reclasser la voiture avec le stand de camping. Lui, ça ne dérange pas, puis il s'en va directement vers nos choses et donc vers l'auto. Mais tout était dehors. C'est un choix à faire. On fermait les portes de l'auto ou on essayait de rentrer le stock le plus rapidement possible. Quand il est arrivé, il est rentré dans l'auto, le renard.
Vraiment que
là.
Les gens le nourrissent pour ceux qui s'est approché des humains. Mais tu sais, juste pour finir avec le Parc national du Bec, tu peux... Mettons, tu pars d'ici, là, c'est à peu près quoi? 4 heures, le Bec, Martin?
Même moins que ça.
Ouais, moi, j'irais avec un
3 heures.
Mais
mettons, 3 heures, c'est dedans.
Ouais. Mettons 3 heures, mais il faut que tu arrêtes à la fromagerie des Basses.
Ben, c'est ça, c'est pas...
Fait 3 heures et demie, 4 heures.
Je me suis retenu, ben, c'est un arrêt incontournable.
Mais tu marches une demi-heure quand tu es rendu dans le Parc national du Bec, là. Tu t'assois sur le bord de la mer, puis il y a les phoques qui viennent te voir, là. Moi, j'avais amené mon kit.
Ah, c'est débile.
Ouais. Aller faire du kayak dans ce coin-là, il embarque sur ton kayak.
Oui.
J'avais amené mon petit kit, là, mon wetsuit, puis j'étais sauté à l'eau avec les phoques. J'avais mes palmes, puis le mâle, il mordillait le bout de mes palmes. Puis la femelle restait un petit peu plus loin parce qu'elle était un peu plus craintive, mais elle me montrait juste ses yeux puis sa tête. C'était un moment incroyable. Wow. C'était à 2h30, 3h.
C'est pas loin. C'est tellement des beaux spots. Puis moi, depuis des années, des étés que je vais du côté des Escoumins, du côté des Bergeronnes, aller m'installer sur le bord des roches. Du fleuve Saint-Laurent, puis c'est tellement le fun parce qu'on est une des seules places dans le monde où on peut être à côté d'un plan d'eau, puis on peut voir des baleines passer. C'est complètement fou. Je pense que c'est juste en Norvège, je ne me trompe pas, qu'on peut vraiment avoir de proches comme ça.
Ouais.
On a vraiment une belle possibilité, là, puis j'y vais encore cet été, puis j'ai vraiment hâte, là, mais c'est un joyau qu'on
est
ici.
On est vraiment chanceux. Ouais.
Ah, mais c'est fou. Là. Puis si vous voulez voir d'autres territoires comme ça, là, descendez, c'est à Côte-Nord. Là.
Oui.
Les gens qui ne sont pas habitués à Côte-Nord, là, si vraiment on aurait un revirement climatique comme il nous a toujours été présenté, là, que le Québec deviendrait quasiment le sud, puis le sud le nord, là, ben, je vous annonce que les destinations sud qu'on connaît à l'heure actuelle, là, dans les Caraïbes, etc., c'est la Côte-Nord. Là. Vire l'eau à de l'eau chaude puis du soleil, là, c'est des plages de sable incroyables. C'est des secteurs où est-ce que justement, c'est des boules de roche. Les paysages sont... C'est hallucinant là, comment est-ce qu'on a des bords de l'eau tripants au Québec.
Je suis heureuse que tu en parles, Martin, parce que les paysages... Juste à Sept-Îles, là, ben, je comprends que il y a mine, il y a X, Y, Z sur ta route, mais à Sept-Îles, les plages qui sont là, que c'est des kilomètres de plage, prends une photo puis dis pas t'es où. Fais juste la mettre sur ta page Facebook. Je l'avais fait il y a plusieurs années. Puis les gens croyaient que j'étais rendue à Cancun ou. Mais c'est sûr qu'il fait un peu plus froid puis que l'eau n'est pas nécessairement chaude, là. Mais c'est... le nord du Québec est sous-estimé.
C'est hallucinant, c'est hallucinant. Puis t'as des sandbanks dans ce coin-là, là, vraiment des espèces de grandes, comme des comme si c'était des carrières de sable,
À
mais
Tadoussac,
naturelles.
oui.
Non, non, dans le nord, plus que ça, là, la plage des Tenues, là, dans le coin de la côte nord, là. Je sais pas si t'as
Je sais
déjà
pas, t'as
été
de la
là.
reconnaître ça, je sais pas c'est où.
Ben, ça s'appelle comme ça, je sais, marquant, là, mais il y a rien que... J'ai pas vu Monsieur Couillard sur place,
T'en souviendrais.
Oui, mais ça, en plus, c'est vide, parce que t'as pas d'achalandage touristique, là. Puis
Ben, et voilà, et voilà.
c'est ce que tu dis, des sandbanks avec l'océan devant toi, quasiment, puis l'eau...
Ah, c'est pour elle. Le plus proche auquel on a accès à ça, c'est justement là, dans le coin de Sandbanks, sur le long du lac Ontario, là, où est-ce que tu as ce genre de place-là avec des grands bancs de sable, puis Sandelli qui est plus à l'ouest.
Mais ça, c'est
Sinon,
plein.
c'est.
Ça, c'est plein de
Oui, ça,
touristes.
c'est plein, 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 c'est hallucinant. La côte nord est tripante. Tu sais, le parc du Bic, t'en parles, Yannick, c'est hallucinant d'aller se promener dans ce coin-là, je veux dire. Puis, tu sais, tu dis, sortez pas des sentiers. Moi, je vais vous dire, au contraire, sortez des sentiers. Faites du son quand vous vous promenez. Parlez entre vous autres, chantonnez. Il y a une petite cloche avec vous autres pour annoncer votre présence si vous ne voulez pas avoir trop de proximité avec la grande faune. Mais allez-y, sortez des sentiers. C'est pas juste des animaux, sur le plan végétal. Toute la végétation, vous allez voir dans ce coin-là, c'est hallucinant aussi, non? Mais de rencontrer, à la limite, un orignal ou un ours, le réflexe que tu as eu, Yannick, est-elle bon? On en a parlé ensemble. Retirez-vous. C'est la même affaire quand on parlait des Autochtones tantôt ou encore des Blancs qui sont sur leur territoire et qui ne veulent pas que vous entriez. Je veux dire, la meilleure solution, c'est retirez-vous, mais s'il vous plaît, profitez-en. Allez-y, sortez des sentiers, allez-y sur le bord de l'eau. Vous avez un masque et des palmes avec un tuba, mettez-vous à face dans l'eau un peu, vous allez triper à quel point au Québec on a une faune et une flore sous-marine qui est hallucinante. Ça n'a même pas de bon sens ce que vous manquez. Si vous avez... Même dans le lac où est-ce que vous louez un chalet, là, habituez-vous à amener juste palmes, masque, tuba. Nous autres, on va dans le sud, on va n'importe où. Je suis rendu que j'ai ce réflexe-là. J'amène toujours au moins palmes, masque, tuba. Parce qu'il y a tout un univers quand je suis assis sur le bord de l'eau. Mais quand je me mets à face en dessous de l'eau, il y a tout un autre univers
Ouais.
et une zénitude qui va avec. C'est un autre. Tu penses avoir fini de visiter, là? Mets ta face dans l'eau, puis tu vas voir que tu as un deuxième pays à visiter là.
Mais il y en a des moins beaux, par exemple, dans ces
Oui,
lacs-là,
oui.
puis ils sont pas limpides, fait qu'ils te surprennent.
Ouais. J'ai un de mes amis que j'ai déjà reçu sur les ondes de Boulevard, s'appelle Patrick Bourgeois, comme le
Oui.
chanteur, mais c'est un gars qui a évolué longtemps en politique. Puis là, maintenant, il est obligé de mettre un R parce que les gens disent ah, tu t'appelles Patrick Bourgeois comme le chanteur. Fait que là, sur Facebook, c'est Patrick R. Bourgeois. Lui, il fait des expéditions sous-marines. Puis il diffuse toutes ses photos qu'il prend. C'est un photographe professionnel. Puis il diffuse toutes les photos sur sa page Facebook. Sérieux, si ça vous intéresse, là, la faune dans ce secteur-là, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est un des plus beaux endroits au monde pour observer la faune, à ce qu'on m'a dit. Puis lui, c'est toujours des rencontres exceptionnelles. Puis si vous êtes capable de tomber sur sa publication où il a croisé l'œil d'une baleine qui l'observait pendant que lui était en train de photographier quelque chose de plus petit, il a senti quelque chose de gros passer dans son dos, il a eu le temps de se revirer, de prendre en photo, puis il a eu l'œil de la baleine. Je veux dire, c'était exceptionnel, là.
Ah, écoute, la surface de l'eau, c'est un mur, on va dire ça de même, c'est un mur que 90% de la population n'a jamais franchi. Puis la journée où est-ce que tu franchis cette surface de l'eau-là, tu te rends compte qu'il y a tout une autre dimension que tu connais pas alentour de toi, que tu n'as jamais visité, qui est incroyable. De visiter la surface de la Terre, c'est une chose, mais de dépasser la surface de l'eau comme mur imaginaire, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, ça te donne toute une autre dimension. Tu peux doubler ton temps de vacances parce qu'il y a un bout que tu n'as pas encore visité. Là. Ça s'appelle en dessous de l'eau.
On a parlé des animaux très cool à côtoyer, d'autres animaux qui sont peut-être un peu nuisibles. On fait quoi avec ces animaux nuisibles-là? Puis qu'est-ce que tu définis comme étant des animaux nuisibles?
Bon, on va dire nuisibles parce que les gens les définissent comme ça, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on commence à avoir de la visite sur nos terrains, les vers blancs vont commencer à sortir, fait que les moufettes vont venir se nourrir, fait que les moufettes, les ratons laveurs, et etc., commencent à se pointer sur nos terrains. Puis là, on a de la misère avec ça, puis on ne veut plus les voir. La première chose que je vais vous dire, si vous ne voulez pas trop qu'ils s'approchent de votre maison, il y a deux grandes règles. Tout ce qui est sac, comme nous autres ici, là, si on laisse des sacs sur la galerie à ce temps-ci de l'année, au matin, ils sont éventrés, là, parce que ces bébés-là, ils veulent manger. Tout ce qui est sac, on va les mettre dans les contenants qui sont pour ça, donc les bacs à ordures. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je peux faire pour les éloigner s'ils s'approchent, c'est un produit, puis c'est pas parce que je veux en faire la publicité, c'est parce qu'il fonctionne en tabarouette. Aller en centre animalier ou encore dans les centres de nourrissage canin, etc., il y a un produit qui s'appelle Fiche le camp, qu'on peut
OK.
vaporiser. Ça s'appelle vraiment Fiche le camp. On peut le vaporiser au sol. Il se vend aussi en granules qu'on peut mettre dans les plates-bandes pour que les ratons laveurs viennent arrêter de déterrer nos plantes, et etc. Ça, c'est un premier réflexe.
Ouais, on vient de trouver le prochain parfum à Pascal.
C'est vrai que je pourrais en acheter une caisse.
Oh, ou Marceau, il tombe tout le temps face à des ours.
Ouais. Non, quand Pascal va dans les bars, elle met ce parfum-là. Tu fiches le camp.
Et tu sais, ça, c'est le premier réflexe. On veut vraiment comme ramasser qu'est-ce qu'ils attirent puis mettre des moyens répulsifs en place. C'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, appelez pas SOS braconnage, appelez pas la faune parce qu'il y a une moufette sur votre terrain. Là. La faune partira pas à la course pour venir chercher la moufette sur le terrain et aller la rapporter dans le bois. Si vraiment ça commence à être nuisible, eh bien, on va faire une recherche sur Facebook ou encore dans les petites annonces pour trouver les trappeurs qui sont autour de nous. Il y a vraiment des services d'enlèvement d'animaux. Donc, on va vraiment utiliser ces services-là. Ce sont des trappeurs professionnels qui vont venir installer des cages à capture vivantes et qui vont aller relocaliser les bêtes.
Parce que je pense que si tu le fais, les municipalités, des fois, ils peuvent te donner des amendes, hein, puis on ne le savait pas.
Ah, ben, carrément, le ministère va donner une amende. Okay. Parce que si tu trappes sans permis en dehors d'un temps et d'un territoire de trappe, tu es en train de faire une activité de braconnage, littéralement. Tu es en train de faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. C'est pour ça qu'il y a des professionnels qui, eux autres, ont des permis, souvent des permis de type seigle, qui vont pouvoir agir avec les animaux nuisibles, puis ils vont pouvoir venir retirer cet animal-là et aller le relocaliser ailleurs. Donc, ça, c'est la façon de faire. Jamais, jamais on essaye de le faire seul. L'utilisation de pièges mortels ou encore d'armes mortelles est encore plus à prohiber parce que vous êtes en train de commettre un acte de braconnage. Fait que toujours, toujours penser, retirer qu'est-ce qui attire l'animal, premier point. Deuxième point, utiliser des moyens répulsifs. Puis là, on parle du produit Fiche le camp, entre autres. Là, il y en a qui vont écrire vinaigre puis plein de patentes. Oui, vous pouvez l'essayer aussi. Mais le Fiche le camp fonctionne très bien. Donc, enlèvement de ce qui attire.
Oui, il n'est pas si cher en plus. Bien moins cher que d'autres. 28 $ environ là, pour une bouteille.
Et rapide sa recherche. Bon. Hein, je pourquoi.
C'est abordable, c'est ce que je veux dire.
Et sinon on appelle un professionnel, littéralement. On appelle un professionnel qui va venir l'enlever. Braconnage, là, en parlant de ça, SOS braconnage, ça, c'est un numéro qui est réservé si vous voyez des actes de braconnage, des actes louches, ou encore, il y a un animal qui est louche dans le secteur. Il y a une femelle orignale dans mon quartier, c'est drôle, elle se laisse approcher, etc. SOS braconnage sont les gens qu'on va appeler. Ça, c'est le service de protection de la faune. En passant, eux autres, ils viennent de finir une grosse opération. Là, 81 individus condamnés à des amendes totalisant 316 750 $ pour braconnage. Ça coûte cher du braconnage.
C'était quoi dans leur
appelez
cas?
Un pro. Hein?
C'était quoi dans leur cas?
Dans leur cas, c'est du braconnage, c'est de la revente de poissons et de gibier.
Dans le poisson,
dépassement des limites de poissons et de gibier, possession illégale de poissons et de gibier. Donc, les gens avaient en leur possession, là, on a la liste des noms, j'ai toute la liste des noms devant moi, 81 personnes, des éperlans, de la truite arc-en-ciel, de la vente d'orignal, de la vente de saumon de l'Atlantique, encore de la vente d'éperlans. Tu vois, il y a beaucoup de saumon, beaucoup d'éperlans, beaucoup de truites, de l'orignal, du chevreuil, qui ont été saisis chez ces individus-là. C'est un réseau de vente là, de venaison, de chasse puis de pêche. C'est du braconnage.
C'est pas des gens qui se sont trompés puis qui n'ont pas suivi les règles
non,
sans savoir.
C'est sévère en sacrifice quand tu te fais prendre. Donc, tu le fais pas de un, de deux. Si tu te fais prendre, tu vas payer. J'ai des gens que je connais. Je pense qu'on s'en était déjà parlé, Martin. J'essaie de me rappeler qui m'avait raconté ça. Mais eux autres, c'était sûrement des chums de plongée, mais ils ont décidé d'aller faire de la plongée dans le secteur de la Gaspésie. Puis ils se sont dit, tiens, on va aller pêcher les fruits directement dans la mer. Et quand ils sont sortis, ils ont été vérifiés par des agents. Je ne sais pas si c'était des agents de la faune.
Des fédéraux.
C'est des fédéraux. Puis ils ont dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, dis-nous autres, ça va être notre souper ce soir. Ils se sont fait tout retirer. Le matériel, le char, le troc, là. Ils n'ont plus de troc. Ils se sont fait tout retirer, tout canceller. Merci, bonsoir, la cour. C'est avec une amende extrêmement salée, là. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Il y a quoi de très, très important dans ce que tu dis, puis ça, là, les auditeurs, il faut vraiment, vraiment qu'ils comprennent ça. Là. Il y a une énorme différence qui existe entre un permis de pêche au provincial, donc le permis qui me permet de pêcher de la chien, du brochet, du doré, de la truite, etc., puis les permis qui vont me permettre d'aller chercher des mollusques et crustacés dans le fleuve Saint-Laurent ou dans l'eau salée. Là. Ça, c'est régi par Pêcherie et Océan Canada. Il faut vraiment... Tu l'as sûrement déjà fait toi aussi en plongée. Quand on va pêcher, par exemple, de la pétoncle, on va vraiment sur le site de Pêcherie Océan Canada, puis on va vraiment aller chercher un permis qui cible ces mollusques-là. Ça prend un permis. Ton permis de pêche ne te permet pas de récolter des huîtres ou des pétoncles ou du homard ou du crabe ou du quoi que ce soit. Ça, c'est Pêcherie Océan Canada qui gère ça. C'est pas le ministère de l'Environnement, de la Faune et des le même qui gère ton permis de pêche à la truite, là. C'est deux ministères et deux gouvernements différents. Notre pêche, notre chasse ici, c'est le provincial. Tout ce qui se passe au niveau oiseaux migrateurs et qu'est-ce qui se passe au niveau de la récolte de mollusques et de poissons côtiers comme ça, ça, c'est Pêcherie Océan Canada.
Tu sais, on parle pas de grands criminels ou de grands associés vaudous. On parle de gars qui voulaient aller en expédition dans le fond de l'eau, s'amuser un peu, faire de la plongée sous-marine. Se sont dit, tiens, on va joindre l'utile à l'agréable, on va se servir.
Insouciant seulement. Là.
Ben oui, puis quand ils sont sortis, ils se sont fait accueillir, puis ils se sont ramassés en cours. Puis une amende salée, je me souviens pas là, de l'amende. Puis je me souviens même pas s'ils ont récupéré leur camion, de mémoire.
Après la saisie, hein?
Après la saisie, oui.
Hey, c'est spécial, ça.
Ben, c'est juste, tu vois, dans la saisie qui a été faite, là, il y en a là-dedans, il y en a une trollée, là, je regarde les amendes, il y en a qui ont des amendes de 1800. Oui, mais regarde, il y a des gens là, dans le réseau qui ont été accusés d'achat illégal de poissons. Donc, des gens qui ont acheté le poisson à ces gens-là sans le savoir. Les amendes, c'est quand même 1 825 $.
Ah, tu t'en rappelles à quel point il t'a coûté cher finalement ton poisson.
Oui, oui, oui. Puis annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 24 mois. Okay. C'est ça quand même. Là.
Puis non,
là,
mais c'est
ça,
sérieux. C'est les gens... Puis il y a des raisons pourquoi ça l'est aussi, là.
Oui.
C'est à savoir. C'est bon ce que tu nous dis là, Martin. Puis, tu sais, les gens collaborent énormément à ta chronique. Il y a même du monde qui pose des questions comment éloigner des loups, là, parce qu'ils sont rendus envahis dans le coin de Labriville, c'est à la côte nord. Là. Des loups, Martin, on en voit de plus en plus. Auparavant, on avait des coyotes, mettons, sur la côte
des
de Beau.
Coyotes, là, les loups restent plus loin, normalement, Martin.
Mais ils se sont approchés.
Les loups se tiennent plus loin de l'homme, de manière générale. Donc, mais c'est là, sûr et certain que. Vas-y.
Mais là, dans l'actualité, au courant des dernières années, il y avait approché dans certains secteurs, puis on disait que c'est parce qu'il manquait de nourriture. T'as-tu entendu parler de ça?
Oui, beaucoup. Il y a le phénomène des loups qui se rapprochent des populations parce qu'évidemment, on diminue leur territoire en bâtissant des nouvelles routes, des nouveaux ci, des nouveaux ça. On fait beaucoup de travaux forestiers aussi. On fait des travaux forestiers en abord des rivières qui changent le cours des rivières. On fait beaucoup, beaucoup de travaux et d'activités qui les rapprochent de nous. Fait que oui, le loup se rapproche, mais il y a une autre incidence aussi, c'est que le loup et le coyote, depuis un certain temps, se reproduisent ensemble et donnent une espèce qui s'appelle le coy-loup, qui est encore un petit peu comme le coyote, va se rapprocher un peu plus de l'homme, mais avec la force d'un loup. Là. Donc, ça devient inquiétant pour les gens. Bien, dans les deux cas, c'est sûr que l'activité humaine va les éloigner, mais souvent, ça devient très problématique. Puis quand ça devient problématique à ce point-là, on n'a pas le choix de faire affaire avec des chasseurs ou des trappeurs. Tu n'as pas le choix parce que tu ne pourras pas les éloigner par toi-même. Puis effectivement, si, comme tout le monde dans le temps de la COVID, tu as décidé de faire pousser des poules sur ton terrain, bien, c'est intéressant. Encore là, on revient au point de tantôt. On enlève les moins, on enlève qu'est-ce qu'ils attirent, puis on utilise des répulsifs. Fait que c'est sûr que dans ces cas-là, de retirer qu'est-ce qu'ils attirent, puis d'essayer d'utiliser des fiches le camp, etc., peut donner un coup de main. Mais un loup, c'est intelligent en tabarslac. C'est rusé en maudit. Fait que généralement, tu vas vraiment avoir... Tu vas vraiment appeler un trappeur ou encore des chasseurs qui vont venir chasser ou trapper les loups. Autrement... S'y prendre par toi-même à essayer d'éloigner une meute de loups, c'est excessivement organisé, une meute de loups, c'est excessivement intelligent. Il y a une hiérarchie là-dedans qui est encore dure à comprendre par l'homme. Puis honnêtement, ils sont capables de prendre possession de territoire. Ils chassent avec stratégie. C'est presque un commando d'assaut, là, une meute de loups, là, tellement c'est intelligent. Fait que de disperser une meute de loups ou de l'éloigner, ça prend généralement l'implication d'un très bon trappeur ou d'un bon groupe de chasseurs. Sinon, des moyens répulsifs, là, où est-ce qu'on va avoir recours, par exemple, à des canons propane qui vont un petit peu comme dans les déchetteries, tirer à toutes les 2 minutes un coup de canon au propane qui va les intimider et qui va les retirer. On va essayer d'effaroucher dans ce cas-là. Là. On peut essayer d'effaroucher des moyens statiques, mais c'est pas évident, les loups. Là.
Martin Bourget, Nicolas te pose une question. J'aime beaucoup quand quelqu'un me pose une question qui commence par « admettons ». Admettons que des ratons qui font du ravage dans ces silos de maïs à la ferme, là, est-ce qu'ils pourraient, admettons, à la limite,
si ça arrivait,
s'en débarrasser en dehors de la zone autorisée pour des raisons, admettons, de biosécurité et de perte économique, mettons?
Bien, il peut le faire, mais il faut qu'il passe par le processus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parle avec l'agence, les agents de protection de la faune pour obtenir ce qu'on appelle un permis seigle. Le permis seigle, va, dans son cas, il va y avoir une demande qui va se faire de dire, par exemple, qu'il encourt des pertes économiques. Puis l'Union des producteurs agricoles peut l'aider là-dedans. Le permis seigle pourrait lui permettre lui-même de tendre des pièges ou encore de procéder à l'enlèvement des ratons, mais il faut qu'il passe par le processus. Il ne peut pas le faire par lui-même, parce que s'il fait par lui-même puis il se défend par après avec le facteur économique, il va être coupable, c'est sûr et certain. Okay. Alors que s'il fait une demande en présumant le facteur économique, il risque d'avoir un permis qui permet de le faire. Sinon, Nicolas, mets une annonce sur Facebook pour des trappeurs. Il y en a alentour chez vous. Ils vont venir mettre des pièges. Ils vont s'en occuper. Encore mieux que ça, si tu as du dindon, du chevreuil sur ton territoire, fais un échange avec des chasseurs qui peuvent venir chasser le raton, mais tu vas faire un échange avec eux autres. Tu vas leur donner accès à ton territoire pour qu'ils puissent chasser le dindon en saison puis le chevreuil en saison. Ils vont s'occuper de tes ratons, mais ils vont aussi s'occuper de tes marmottes sur tes terres.
Mais c'est ça, moi, avec les marmottes, là, les centaines de marmottes que j'ai envoyées chez un de mes collaborateurs, est-ce que j'avais le droit d'y transporter les marmottes sans les sacrifier, mettons?
Non, parce que tu as fait du trappage. Ce que tu as fait, c'est du trappage.
OK, mais c'est pas moi. Admettons. C'est comme. admettons que j'aurais fait ça il y a de ça 25 ans, mettons.
Écoute, admettons que tu avais un permis de trappage puis que tu étais dans les dates, quand tu étais dans les dates puis les zones pour l'animal ciblé, il n'y a pas de problème.
Mais c'est si tu n'as pas de permis pas de trappage,
que tu n'es pas dans tes zones puis tes dates,
tu
n'as pas le droit.
Mais non, mais tu vois, chez Canadian Tower, tu achètes la cage, tu dis, admettons que j'ai mettons des marmottes admettons, à prendre. Oh, ouais. Admettons, je
on communique, on communique avec l'Agence de protection de la faune avant pour s'assurer qu'on a le droit de le faire, qu'on nous donne l'autorisation de faire une capture vivante. Sinon, on fait affaire avec des professionnels dans le coin.
Ou on pose des questions à Martin.
Ouais,
là.
C'est ça. Hey, tu sais, dans le temps, là, hey, j'aurais eu du trouble, admettons, si j'avais fait ça. Hey, Martin, c'est toujours un plaisir. Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On peut te voir où, on peut t'entendre où. Et surtout, Kate, on peut la voir où?
Ben justement, Kate va être avec moi en live jeudi à 19h sur nos différents Facebook, mais tranquillement, pas vite, on déménage de Facebook vers notre site Internet. Donc, connectez-vous directement à sa plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. Cliquez sur live jeudi à 19h. Vous pourriez gagner gros, très gros ce jeudi d'ailleurs.
Toujours
je vous dis juste ça, là. Venez nous écouter.
Toujours un plaisir, mon ami.
Merci beaucoup.
Salut, bye-bye. 13h33, on revient.
La chronique Chasse-Pêche avec...